Voilà, alors on va continuer sur le pardon des choses qui peuvent servir. Donc je suis les 12 étapes que le père Montbourquette, dans un de ses livres, qui est peut-être à la librairie, je ne veux pas trop m'avancer, hein, comment pardonner. Donc il propose 12 étapes. Alors la dernière fois on a fait les 7 premières étapes, je vous rappelle un petit peu simplement pour que vous voyez un peu le mouvement, hein, pour... Le pardon, il y a une première étape qui est comme une introduction, c'est autant que faire se peut. Alors, soit, et l'un et l'autre, décider de ne pas se venger, et puis aussi de cesser les actes offensants. Alors ça demande quelquefois un peu de courage. Voilà, si on veut que les choses s'arrêtent, quelquefois il y a des démarches à faire, aller confronter l'autre, quelquefois, voilà, il faut voir, mais... Bon, l'autre a sa liberté, alors ça marche pas forcément non plus, hein, mais voilà, après, bon, on fait avec si l'autre ne veut pas, mais plutôt que de souffrir tout le restant de nos jours de quelque chose, ben, il faut commencer par voir celui qui nous fait souffrir et lui dire, ben, ça me fait mal, quoi. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais quelquefois, il faut un peu de courage au point de départ pour... Là encore, il y a plein de situations diverses et variées, donc je rentre pas dans les détails, mais c'est un peu comme... Le préliminaire à tout le processus du pardon, parce que ça demande un peu d'énergie pour pardonner. Alors, voilà, il faut bien... Voilà. Et après, on a 6 étapes qui suivent. Je ne reviendrai pas dessus. Reconnaître sa blessure, sa pauvreté, partager sa blessure avec quelqu'un, identifier sa perte pour en faire le deuil, accepter la colère, se pardonner à soi-même et comprendre son offenseur. Alors tout ça, on a essayé de voir ça la dernière fois, je ne vais pas y revenir. Essentiellement, c'est pour ces étapes sous des angles un peu variés, mais c'est de se libérer du ressentiment. C'est plus une démarche psychologique aussi à ce moment-là, de différentes facettes. Voilà, mais pour ainsi dire, aujourd'hui, on va rentrer dans le cœur du pardon aujourd'hui. Ça reste encore quelque part des préliminaires qui sont importants, mais alors là, la 8e étape, c'est un peu une charnière, cette 8e étape. On va entrer. Vous voyez, trouver dans sa vie un sens à l'offense, on se tourne déjà un peu vers le futur. On n'est plus vers la blessure passée, mais on s'oriente vers le futur. Je vous parlerai un peu de la résilience. Et puis après, 3 étapes qui autour du pardon. Qui est une grâce. Mais alors, du coup, ça sera l'occasion aussi de parler un peu de la grâce et de notre coopération à la grâce. Et puis, 12e et dernière, décider de mettre fin à la relation ou la renouveler. Oui, dernière chose avant, ça vaut pour le pardon proprement dit, quand il y a quelqu'un qui nous a fait du mal. Mais ça peut valoir au moins différentes étapes pour un échec. Il n'y a pas forcément quelqu'un en face avec une responsabilité qui nous a fait du mal, mais comment rebondir après un échec? Il y a des échecs divers et variés dans notre vie. Alors pour une part, ça peut aussi valoir pour un échec, voilà, et de repartir de l'avant. Voilà, donc me voilà arrivé donc à la 8e étape, donner un sens à la blessure. Ah, peut-être voulez-vous une histoire tirée du folklore chinois. Un jour, un fermier perdit le plus beau de ses étalons, un cheval magnifique qui s'était enfui. Ses voisins vinrent le trouver pour s'apitoyer sur son sort. « Comme tu es malchanceux, lui dirent-ils. » Lui de répondre, « C'est possible. » Le lendemain, voici que réapparaît son étalon dans l'enclos avec 3 belles juments sauvages à ses côtés. Les voisins s'empressèrent d'aller féliciter le fermier de sa bonne fortune. Même réponse laconique, c'est possible. Un jour, le fils du fermier, en voulant dompter une des juments, se brisa la jambe. Les voisins accoururent de nouveau pour déplorer son malheur. Mais le fermier eut la même réaction, c'est possible. Quelques jours plus tard, une troupe de militaires vinrent mobiliser de force les jeunes gens de la place. Ils ne voulurent pas cependant s'embarrasser du jeune homme handicapé. « Quelle chance !» de s'exclamer les voisins. Et le fermier de répéter « C'est possible. » Voilà. C'est une histoire, mais en même temps, je trouve que dans notre vie, il y a des choses aussi. Soit on se concentre sur ce qui est mal et puis on fait notre propre malheur. Soit peut-être c'est donner un sens à sa blessure. Peut-être qu'il peut y avoir un autre sens. Peut-être que. Alors, c'est pas. Là, on est à la huitième étape. Hein. Au départ, c'est sans doute quelque chose d'impossible à faire quand on a vécu quelque chose de très douloureux, de voir un sens. Bon, au départ, on n'est pas prêt. Hein. Donc, là, on est dans la deuxième partie. Hein. Donc, mais déjà, il faut être un minimum apaisé pour pouvoir prendre un petit peu de recul et dire, mais finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Mais si on ne peut pas encore le dire, c'est que peut-être on a encore à travailler sur ce que j'ai dit la fois dernière. Et, voilà. Et encore une fois, il n'y a pas de. Voilà, c'est comme ça. Ça prend du temps, tout ça. Tout ce qui est de l'ordre de notre psychologie, ça ne se fait pas forcément. Et alors, du coup. Le père Monbourquette parle de la période de l'entre-deux. Et je trouve que ça correspond assez bien à cette huitième étape. Et il invite à se poser trois questions pour cette période. Quelle leçon tirer de cette offense ? Et derrière, c'est j'ai une perte, mais qu'est-ce que peut-être ça va me donner ? Alors, quelquefois, ça nous fait tomber quelques illusions. Alors, ça peut être possible. Quelquefois, on se mettait dans des situations impossibles. Alors, du coup, là, on réalise qu'il ne faut peut-être pas que je me mette dans telle et telle situation. Du coup, c'est toujours intéressant de voir peut-être qu'à travers ça, je vais apprendre à avoir, moins dépendre de du regard des autres. Peut-être que je peux davantage apprendre à dire non plutôt que d'accepter trop vite ce qu'on me demande, ce qu'on me propose. Peut-être que ça peut-être de plus me positionner soit en sauveur, soit en victime, soit voilà. Du coup, c'est la première question. Quelle leçon tirer de cette offense ? Qu'est-ce que je peux en. Deuxième question, c'est qui suis-je ? Donc, mieux se connaître soi-même. Et ça, ce n'est pas les autres qui peuvent le dire à notre place. Mais alors, du coup, derrière cette question, qui suis-je ? Il a plein de questions. Qu'ai-je appris de l'offense subie ? Quelle nouvelle connaissance ai-je acquise sur moi-même ? Quelle limite ou fragilité ai-je découverte en moi ? Ça peut être précieux de savoir si on est fragile sur un certain point, bon, on essaie de ne pas trop s'exposer. Suis-je ensuite devenu plus humain ? Quelles nouvelles ressources et énergies ai-je découvertes en moi ? Quel nouveau degré de maturité ai-je atteint ? Vous les retrouvez hein, sur le site après, normalement, la webmaster doit mettre ça. À quoi cette épreuve m'a-t-elle initié ? Quelle nouvelle raison de vivre me suis-je donnée ? Jusqu'à quel point ma blessure a-t-elle fait émerger le fond de mon âme ? À quelquefois, c'est justement dans une épreuve qu'on découvre aussi d'autres, des choses plus profondes en nous. Dans quelle mesure ai-je décidé de changer mes rapports avec les autres et particulièrement avec Dieu ? De quelle façon vais-je maintenant poursuivre le cours de ma vie ? Voilà. À quel grand personnage actuel, historique ou mythique, l'offense subie me porte-t-elle à m'identifier ? Voilà. Mieux se connaître soi-même. Qui suis-je ? Ça, c'est une deuxième question à travers ça, du coup. Et troisième question, alors là, c'est vraiment vers l'avenir. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Quelle nouvelle raison de vivre vais-je me donner ? Et ça rejoint un thème quand même qui est très fort aussi dans notre foi chrétienne. Hein. Vous vous rappelez cet hymne très connu qui annonce la fête de Pâques. Pendant la nuit de Pâques, pendant la vigile pascale, hein, il y a l'exultet. Et dans l'exultet, il y a une phrase assez connue, « Heureuse faute qui nous valut un tel rédempteur ». Mais vous voyez, ça c'est vraiment inscrit dans notre foi chrétienne aussi. Comment Dieu peut retourner les situations, etc. Mais on est vraiment dans ce point numéro 8. C'est saint Paul aussi qui nous dit, « Nous le savons quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors ça reste quelquefois un peu mystérieux. Hein, quand vous avez une grosse tuile, il faut peut-être un petit moment pour pouvoir le dire. Mais quelquefois, c'est souvent avec le recul qu'on voit que finalement, ça a été un mal pour un bien. Mais du coup, je trouve que c'est... Je voulais vous parler un tout petit peu de la résilience, et il me semble que c'est à cette étape-là que ça convient le mieux, même s'il y a des éléments qui peuvent se... Bon, on en parle assez fréquemment aujourd'hui. Hein. La résilience, au point de départ, c'est plutôt au niveau de la physique. Hein. C'est un corps qui retrouve sa forme après avoir été déformé, etc., après avoir pris un coup, voilà, il reprend sa forme. Mais du coup, après, c'est passé dans le domaine de la psychologie. C'est une faculté à rebondir après un traumatisme. Alors, on n'est pas tous pareils hein, pour ça. On n'est pas tous pareils, donc il n'y a pas de jugement à porter sur les uns ou les autres. Mais il y a quand même des éléments qui peuvent nous aider. Là aussi, ce n'est pas automatique, hein, rien, ça, c'est pas sur commande. Hein, mais il y a des éléments qui peuvent nous aider. Alors, je vais vous donner quelques éléments qui aident à rebondir. Le premier élément, alors, ça, et j'en parle par rapport au pardon, alors ce premier élément, on le retrouve plus dans les premières étapes de vivre le pardon, c'est prendre de la distance. Parce que quand vous êtes trop concentré sur l'offense, sur le mal que vous avez subi, ben vous pouvez pas avancer. Donc, alors, les premières étapes aident aussi à prendre un peu de distance par rapport à l'offense, par rapport au mal qui nous a été fait. Voilà, on fait comme on peut après. Hein. Un deuxième élément qui était aussi notamment dans le numéro 3, c'est l'aide des autres. Quand on a des gens proches qui nous soutiennent, qui ne nous jugent pas, qui nous aiment tout simplement. Ça nous aide à traverser ces moments difficiles. Et puis, les autres éléments sont plus proches, justement, de ce numéro 8, c'est avoir du sens. C'est passer du pourquoi en un seul mot au pourquoi en deux mots. On le voit avec... donc, ça permet, au lieu de regarder vers le passé, de regarder vers l'avenir. Vous connaissez il y a au moins deux passages dans l'Évangile où Jésus réagit vraiment dans ce sens-là. Pour l'aveugle né, c'est dans l'Évangile de Saint Jean. Quelle est la question des apôtres? Est-ce que vous vous souvenez? Il y a un aveugle et il lui pose une question à Jésus. Oui, pourquoi, en un mot, pourquoi est-il né aveugle? Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Et comment Jésus répond? C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. Donc on voit que c'est une manière qu'on a, on a un peu ce réflexe à chercher le fautif. Hein, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher et punir les coupables. Hein, je dis pas qu'il... Mais en même temps... Quand on est toujours tourné vers le coupable, on peut s'enfermer là-dedans et puis jamais s'en sortir. À certains moments, c'est aussi... Alors, je n'ai pas de choses très... Bon, après, c'est dans le concret, donc il faut voir. Mais après, c'est à un certain moment, mais c'est le pourquoi, mais en deux mots. Quel sens ça peut, finalement, comment je peux rebondir avec ça, comment ça peut... on le voit aussi avec la chute de la tour de Siloé. Et Jésus, pareil, mais pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que les autres? Non, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. Dans le sens où Jésus, il ne cherche pas indéfiniment dans le passé qui est à rechercher le coupable. Alors, encore une fois, il n'est pas contre la justice, mais quelquefois, si on peut passer le reste de ses jours à vouloir chercher le coupable, mais peut-être pendant ce temps-là, on ne vit pas. Donc, c'est du coup, à un certain moment, bon, il faut le temps de s'apaiser, hein. Là encore, je ne dis pas que ça se fait dans l'instant, mais je trouve que cette réflexion de Jésus est importante. Et quelque part, c'est aussi dans la mort et la résurrection de Jésus, il y a quelque chose de ça. Hein? Heureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Mais il y a une préfiguration de ça dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez de la conclusion de l'histoire du patriarche Joseph dans la Genèse? Alors, ça s'étend sur pas mal de chapitres. Hein. Lui apparaît comme un peu prétentieux vis-à-vis de ses frères. Voilà, donc c'est le préféré. Il a une belle tunique, etc. Ses frères en ont un peu marre. Donc, ils veulent le tuer. Et puis, finalement, ils le vendent. Et puis, après, c'est les années de vaches grasses et de vaches maigres. Et du coup, lui... Il y a eu beaucoup de péripéties. Et puis, finalement, ses frères viennent en Égypte chercher de la nourriture pour ne pas mourir de faim. Et c'est Joseph qui est chargé de distribuer. Alors, au début, ils ne le reconnaissent pas, etc. Lui, il les met un peu à l'épreuve pour sonder un peu ce qu'ils ont dans le cœur, etc. Et à la fin, donc c'est au chapitre 45, voilà ce que dit Joseph. « Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu. » C'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Donc, vous voyez, c'est beaucoup dans la manière de relire les choses. Il aurait pu en profiter et puis se venger à ce moment-là, à la limite. Voici déjà 2 ans que la famine sévit dans le pays et 5 années passeront encore sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous afin de vous assurer un reste dans le pays et ainsi vous maintenir en vie en prévision d'une grande délivrance. Non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Alors, c'est très beau. Mais donc, on est en plein dans ce numéro 8, là, trouver un sens à l'offense. C'est, alors, souvent, on le voit plutôt vers l'arrière, mais être ouvert au moins. Qu'est-ce qui peut sortir de bon? C'est souvent un peu mystérieux. Hein. C'est facile à dire comme ça, mais après, dans notre vie, c'est quelquefois plus compliqué à vivre. Mais vous sentez que c'est vraiment la charnière. Là, on était obsédé par l'offense. Et là, on ne regarde pas vers le passé, ce qui nous a fait mal, mais on tourne la tête vers l'avenir. Et notre avenir, on le confie entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que toi, tu peux tirer de bon de ça, Seigneur? Voilà, alors je passe à la 9e étape. C'est goûter le bonheur d'avoir déjà été pardonné. Je trouve que c'est assez intéressant cette idée, c'est de Montbourquette, mais qu'on retrouve dans la parabole du débiteur impitoyable, où quelque part, c'est important de goûter les pardons qu'on a déjà reçus. Parce que le pardon, c'est quand même une expérience particulière quand on a fait quelque chose de mal et que les autres ne nous en veulent pas. On dit, j'ai quand même de la chance. Hein. Et ça veut dire, entre autres, qu'ils ne m'aiment pas par intérêt, là. Ils m'aiment vraiment pour moi-même, au-delà de tout ce que j'ai pu faire de mal. Les gens de notre famille nous connaissent avec tous nos défauts. Hein. C'est pareil en communauté. Et réaliser qu'on a de la chance d'être aimé alors qu'on a des défauts, ça, c'est une expérience vraiment importante qui nous aide après à pardonner aussi. C'est cette étape, Et vraiment importante. Et là, c'est vraiment dans cette partie-là, c'est le pardon, c'est pas d'abord à la force du poignet. Alors, il faut se mettre en route, c'est notamment les premières étapes, jusqu'au numéro 7, 8. Mais à un certain moment, c'est une grâce qu'on reçoit. Mais la grâce, on ne l'a pas au bout de nos efforts. Et d'abord, c'est de contempler. De ce point de vue-là, on pourrait parler ici aussi de la gratitude, peut-être, de savoir... quand on est dans une disposition plutôt de gratitude, d'action de grâce, de louange, ça c'est quelque chose qui nous aide à aller de l'avant. Quand on est dans la plainte, etc., c'est pas vraiment ce qui nous aide. Mais en même temps, vous sentez bien que ça suppose un minimum d'humilité, de reconnaître qu'on est pardonné. Dans l'évangile, on voit, voilà, ils n'étaient pas forcément très brillants, et ils ont été touchés par l'amour de Jésus. Vous pensez à Marie-Madeleine, Zachée, Matthieu, la Samaritaine. En revanche, d'autres, qui n'avaient pas de défaut dans la cuirasse, en quelque sorte, les scribes et les pharisiens, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir rien à se faire pardonner, et ils font tout bien. C'est compliqué les gens qui font tout bien, parce que c'est compliqué pour eux après de pardonner. C'est plus facile en un sens de pardonner quand on sait qu'on nous a déjà pardonné à nous et que du coup on peut être très généreux et tout ça, mais du coup pas tellement prêt à pardonner, on peut être impitoyable. Donc vraiment le goût et le bonheur d'avoir déjà été pardonné, c'est quelque chose d'important. Alors Montbourquette note quatre catégories de personnes qui sont imperméables au pardon. Alors, une première catégorie de personnes qui sont imperméables au pardon, c'est ceux qui se croient impardonnables. Alors, leurs fautes sont tellement grandes que c'est pas possible qu'on les pardonne. Et Montbourquette dit, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup de cette espèce-là. Parce que dans notre société où tout se vaut et tout ça, il y a beaucoup moins de gens qui se croient impardonnables. Dans certaines cultures, peut-être, mais peut-être dans la France du XXIe siècle. Une deuxième catégorie, c'est ceux qui ne croient pas à la gratuité de l'amour. En théorie, elles sont d'accord, mais après, quelque part, elles se... Ouais, non, il y aura quelque chose à payer. C'est pas possible qu'on me pardonne comme ça sans... Aussi parce que peut-être elles ne veulent pas se sentir redevables aussi. Après, il y en a qui, troisième catégorie, qui refusent le pardon. Ils ne sont pas coupables, donc ils ont... Ce genre de personnes ne font jamais leur examen de conscience, et ils n'en voient pas l'intérêt d'ailleurs, parce qu'ils trouvent qu'ils sont pas mal finalement, donc ils n'ont pas besoin de pardon, hein, s'ils font tout bien. Et puis il y en a aussi, alors ça c'est assez fréquent quand même, qui aujourd'hui, des personnes qui rejettent tout simplement la culpabilité en disant « non, il faut traiter la culpabilité ». Ben non, elle peut dire quelque chose, alors elle est quelquefois pas tout à fait ajustée la culpabilité, ça c'est possible, mais en même temps c'est pas quelque chose de mauvais en tant que tel la culpabilité, au contraire. C'est plutôt bien qu'un enfant se sente coupable d'avoir fait une bêtise. Alors, il ne s'agit pas qu'il soit, comment dire, scrupuleux, etc. Mais si un enfant n'éprouve aucune culpabilité quand il fait des grosses bêtises, ça devient ennuyeux, quoi. Et aujourd'hui, on a tendance à gommer un peu la culpabilité. Et ben, là où il n'y a pas de culpabilité, ben, il n'y a pas besoin de pardon. Je passe à la dixième étape. Cesser de s'acharner à vouloir pardonner et accueillir le pardon comme une grâce. Alors là, on est vraiment au cœur, je pense que c'est le noyau, hein, là on est au cœur de cette démarche du pardon. Et j'aime bien ce que dit Montbourquette, que vraiment c'est une grâce, c'est pas... au bout de nos efforts, le pardon. Du coup, c'est d'abord reconnaître qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et ça revient assez fréquemment dans l'Évangile, ça revient chez saint Paul. Alors, je vous cite juste un verset de saint Paul. C'est dans l'Épître aux Corinthiens, la première. Moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Donc on a besoin de la grâce de Dieu. On a eu, il n'y a pas très longtemps, c'était l'évangile avec le pharisien et le publicain. Le pharisien, il ne voyait pas tellement l'intérêt de la grâce, tandis que le publicain, il n'osait même pas lever les yeux. Ben, celui-ci, quand il redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre, le pharisien, qui faisait état de ses aumônes, ses jeûnes. C'était quelqu'un de bien, hein, mais voilà. Mais voilà, et du coup, il n'était pas ouvert à la grâce. La grâce, elle n'est pas au bout de nos efforts. Alors, bien sûr, on peut préparer le terrain à la grâce. L'ascèse, c'est quelque chose d'important. Mais à un certain moment, il faut passer des rames à la voile. Des rames, voilà, on fait des efforts et puis à un certain moment, on passe d'une attitude vraiment proactive et voilà, on fait des efforts à une attitude, c'est un effort mais un peu différent, c'est de recevoir l'amour de Dieu, se mettre de sorte qu'on puisse recevoir cet amour. Saint Paul encore le dit aux Éphésiens, c'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. Hein, saint Paul en revient souvent sur, parce qu'il a expérimenté pour lui-même. Alors, le père Mangou-Bourquette raconte l'histoire d'un prêtre très généreux, un missionnaire très zélé, qui voulait vraiment pardonner, hein, parce que alors ce prêtre, autant que je me souvienne, était un missionnaire dans un pays, et puis au bout d'un moment, ça s'est mal passé avec la mission où il était. Du coup, son provincial l'a fait revenir en France, et lui, dont la vie c'était la mission, c'était dur à avaler comme décision, il l'a fait, et il voulait, bien sûr, c'est quelqu'un de pieux. Donc, il voulait pardonner à tout prix à son... Mais il n'y arrivait pas. Alors, je vous cite parce que je trouve... Donc, il voulait pardonner à la force du poignet jusqu'au moment où il est tombé, par hasard, entre guillemets, sur le texte de la guérison du paralytique. La remarque des pharisiens, « Dieu seul peut pardonner », lui sauta aux yeux. Il comprit sur le champ l'inutilité de s'entêter à pardonner en ne comptant que sur ses propres forces. Il comprit enfin que c'était la volonté de puissance qui le menait. Ses beaux efforts n'avaient servi qu'à camoufler son humiliation et sa colère. Il venait de se rendre compte du désir inavoué de se montrer moralement supérieur à son ex-provincial, et du même mouvement d'exercer à son égard une subtile vengeance. Cette découverte l'amena à s'en remettre totalement à Dieu. Il commença par se calmer. Puis il se mit en état de recevoir la grâce du pardon, mais sans savoir comment, quand et où elle lui serait accordée. Deux jours plus tard, il eut la sensation d'abord confuse, puis de plus en plus net, que quelque chose s'était délié en lui. À partir de ce moment, il sentit une paix l'envahir, son cœur devenir moins lourd et son âme libérée. Curieusement, il n'éprouvait même plus le besoin de prononcer la formule « Je te pardonne ». Le ressentiment avait lâché prise, le pardon s'installait à demeure en lui. J'aime beaucoup ce récit. Qui, au-delà du pardon, ça nous parle de la grâce. La grâce, vous ne savez pas forcément quand elle arrive. Hein, lui, mais bon, on n'appuie pas sur un bouton, sur un distributeur, et puis non, c'est plus subtil que ça. Alors, donc il eut la sensation, d'abord confuse, puis de plus en plus nette, que quelque chose s'était délié en lui. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui a délié. Il y a quelque chose qui s'est délié en lui, sans qu'il sache exactement. Quelquefois, c'est en regardant derrière, tiens, je ne suis plus en colère contre cette personne, comment ça se fait? Mais ce n'est pas, non, je ne veux plus être en colère vis-à-vis de cette personne, c'est d'un seul coup. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté pour un pardon que j'avais donné. C'était quelqu'un qui m'avait fait du mal. Et ça m'énervait parce que ça revenait dans la prière. Et au bout d'un moment, j'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Et j'avais promis d'écrire à cette personne. En revenant ici, c'est il y a 36 ans, je crois. Mais une fois que j'ai fait ça, après, j'y pensais plus, tout simplement, j'y pensais plus. Et puis voilà, ma vie continuait tranquillement. Mais en revenant ici, je n'ai pas écrit la lettre en plus, parce que bon, je suis arrivé et puis j'ai eu plein de choses. Mais j'ai reçu une lettre de la personne qui était datée du jour où j'avais pardonné. Bon, alors qu'il n'y avait aucune raison de... Et pour moi, c'était... Bon, voilà, comme c'était clair et net que quelque chose s'était délié dans l'invisible. Ce n'est pas moi, à force de faire quelque chose qui... Alors, bien sûr, j'avais prié le Seigneur, etc. Mais on ne sait pas où, quand, comment ça va se faire, quelquefois. Je trouve que c'est intéressant, cette expérience, parce que je pense que le pardon, nous, on voudrait, voilà, action, réaction, et puis voilà. Mais non, c'est la grâce. On s'ouvre à la grâce. Après, c'est comme la graine, où si c'est un enfant, il va voir tous les jours si ça germe. Mais non. Et du coup, lié à ça, c'est aussi une certaine pauvreté pour accueillir la grâce, parce que c'est Dieu qui agit à sa manière, comme il veut. Il est libre, Dieu. Comme dit Saint Jean, c'est Jésus qui dit ça à Nicodème, « Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » On voit que ça, c'est compliqué, ce fait de laisser Dieu vraiment libre d'agir. On le voit à différents moments dans l'Évangile. Il y a les ouvriers de la dernière heure. Alors, ceux de la première heure qui ont transpiré toute la journée, ils l'ont un peu mauvaise. Ce n'est pas dans la justice sociale. Mais on le voit aussi avec le frère aîné du fils prodigue. Là, il est un peu mauvaise. Quand même, moi, j'étais fidèle. Et puis lui, il mène la belle vie. Et puis voilà. En plus, tu lui fais un festin. Et laisser Dieu libre. Et quelque part, c'est cette humilité aussi de... C'est pas moi à la force du poignet qui pardonne. On aimerait bien, et du coup, moralement, on serait assez satisfait. Moi, j'ai réussi à pardonner. Je dois vous avouer que quelquefois, il y a des personnes qui racontent un pardon qu'elles ont vécu, ça peut être tout à fait vrai, mais quelquefois, il y a un petit quelque chose qui me titille un petit peu quand on le raconte autant que ça. Je sais pas. Quelquefois, ça peut être tout à fait vrai, mais quelquefois, le pardon, ça nous grandit pas. En un sens, ce n'est pas pour qu'on apparaisse quelqu'un de bien aux autres qu'on pardonne. C'est simplement une grâce qu'on a reçue et à ce moment-là, vraiment, on peut en témoigner, ça c'est vrai. Mais quelquefois, on sent que quelquefois, ce n'est pas tout à fait ajusté. Parce que la grâce, encore une fois, c'est un cadeau, c'est un miracle qui nous est fait. Et on voit très bien, autant les premières étapes, ça se situe davantage à un niveau psychologique, là c'est vraiment au niveau spirituel. C'est pas un hasard, je trouve, que le pardon est au cœur de notre foi chrétienne. Bon, c'est au cœur de ce qu'on va vivre la semaine sainte, hein, mais là, on sent bien aussi que là, on est au-delà de la psychologie simplement. Alors, il faut la prendre en compte, il y a toutes ces étapes aussi pour la prendre en compte, notre psychologie, parce qu'on est bien incarné. Mais en même temps, la grâce, elle n'est pas enfermée dans notre psychologie. On peut se préparer, on peut, voilà. Mais à un certain moment, voilà, la grâce est donnée sans qu'on y soit pour rien. C'est Dieu qui la donne. Voilà. Onzième étape. Travailler sur nos fausses représentations de Dieu et du pardon. La dixième étape, c'est vraiment accueillir le pardon comme une grâce. Et voilà, c'est pas à la force du poignet. Là, dans cette onzième étape, c'est pas au niveau de la volonté, c'est plus au niveau de l'intelligence. Quelquefois, on a des blocages au niveau de l'intelligence qui nous empêchent d'avancer. Je pense à deux choses là. Une première, vous vous rappelez de Saint Paul, je crois que c'est à Éphèse. Il leur demande, mais vous avez été baptisés au nom de qui ? Au nom de Jésus. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait l'Esprit Saint. Ils ne savaient pas, hein, donc c'était au niveau intellectuel. Et du coup, ils ne l'avaient pas reçu. Du coup, il leur fait une catéchèse, il impose les mains, et alors là, ils se mettent à prophétiser, etc. Parce qu'ils ne savaient pas. Du coup, l'importance de la catéchèse aussi pour pouvoir accueillir la grâce, même si Dieu peut passer de multiples manières. Mais je pense aussi, c'est le père Caffarel, quand il parle de l'oraison, il dit qu'il y a des gens qui se découragent, mais c'est parce qu'ils n'ont pas des idées justes sur l'oraison. Ils pensent que faire oraison, c'est pas avoir de distraction. Ben, à ce moment-là, ils se découragent vite. Ou ils pensent que l'oraison, c'est avoir des grandes pensées sublimes sur Dieu. Ben, le jour où ils sont à peine réveillés, tout ça, où ils ont mal au ventre, ils n'ont pas des pensées sublimes sur Dieu. Mais voilà, ou ceux qui pensent que oui, d'avoir des grands sentiments, voilà, et des grands transports d'amour pendant la prière. Ben non, certaines fois l'oraison est un peu sec, et etc. Mais voilà. Mais si on a des mauvaises idées, quelquefois ça nous coupe de grâce qu'on peut recevoir. Et là, c'est vrai du pardon, entre autres. Alors, si vous lisez le livre du père Montbourquette, il vous parlera d'une sœur, justement, qui, en théorie, elle était d'accord pour dire que Dieu était miséricorde. Mais de fait, dans son éducation, c'était pas exactement comme ça. Parce que le Dieu de son éducation, Dieu était un peu légaliste, perfectionniste, tatillon. Et alors, du coup, elle a transposé ça aussi dans son... Et du coup, elle pouvait difficilement croire au pardon de Dieu. Même si, d'un certain côté, elle disait, oui, Dieu est miséricorde, mais d'un autre côté, il y avait ce blocage un peu en elle qui... Ou alors un Dieu qui est trop permissif, qui est un peu trop papa gâteau. Et ce Dieu-là, il ne pardonne pas, il laisse faire. Mais c'est, laisser faire, ce n'est pas pardonner, ce n'est pas la même chose. Et du coup, il invite aussi à voir si on n'a pas quelques idées qui traînent, quelques peut-être qui... et qui nous empêchent de croire vraiment en un Dieu de miséricorde. Ou alors, autre idée un peu fausse qui peut nous bloquer, c'est de mal interpréter la parole du Notre Père, « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi ». Donc, comme si Dieu attendait qu'on ait pardonné pour commencer à nous pardonner. Ben, on risque d'attendre longtemps. Alors que la parabole du débiteur impitoyable dit bien, c'est d'abord Dieu qui nous pardonne, et après nous... Alors, nous sommes appelés à être cohérents avec le pardon que nous avons reçu, bien sûr. Hein, mais c'est pas... Dieu commence pas à nous pardonner, il nous pardonne pas à la mesure de notre pardon, sinon on serait mal parti. Et du coup, pour travailler sur nos fausses représentations de Dieu et du pardon, c'est de contempler Jésus. Là, on va être dans la semaine sainte bientôt. De voir comment Jésus pardonne. Alors, je pense que ça peut nous aider justement à travailler sur nos fausses représentations de Dieu et du pardon, de voir comment Jésus fait. Douzième étape. Décider de mettre fin à la relation ou de la renouveler. Alors, je l'ai déjà dit et je le redis parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le pardon n'est pas la réconciliation. C'est pas la même chose. Bien sûr, si on peut se réconcilier, idéalement, c'est bien, mais voilà, pardonner, donc on réduit son ressentiment, on grandit en bienveillance, etc. Mais pour la réconciliation, il faut que les deux soient partants. Et dans certains cas, il vaut même mieux pas qu'il y ait de réconciliation. Hein.
Comment on fait ça pour la réconciliation ?
C'est avec Dieu. Oui, avec Dieu, il ne faut pas hésiter. Je suis bien d'accord. Mais avec les autres, avec les autres personnes humaines, alors je vous cite trois cas où c'est impossible, la réconciliation. Un cas, la personne est décédée. C'est un peu compliqué. vous pouvez imaginer, etc. Mais vous ne pouvez pas vraiment avoir une démarche. Un deuxième cas, c'est quand c'est quelqu'un qui est, quand l'agresseur est quelqu'un de violent, pervers, etc. Et du coup, il faut surtout pas se jeter dans ses griffes une deuxième fois. Parce que du coup, comme ça c'est le principe des manipulateurs, ils appuient sur le sentiment de culpabilité de l'autre. Alors et c'est reparti pour un tour à ce moment-là. Donc surtout pas. Donc c'est pas possible. Voilà, c'est comme ça. On peut rêver à un monde où... Mais non, c'est pas possible. Et puis, troisième cas, c'est quand l'autre personne ne regrette pas ce qu'il a fait. Et on ne peut pas vraiment se réconcilier. Parce que la réconciliation, c'est dans la vérité, quand même. Hein, ça se fait pas... Et du coup, si l'autre ne veut pas... J'ai eu l'occasion, il y a pas mal d'années... C'est pour ça que je vois que le pardon et la réconciliation, c'est deux choses différentes. Moi, mon rêve, c'était de me réconcilier. Alors, j'ai fait je ne sais pas combien de démarches, jusqu'au jour où j'ai réalisé, non, il ne voulait pas. Sauf que je vienne à dire, ah, j'ai tout tort. Oui, mais ce n'était pas possible, parce qu'il fallait un minimum de bon sens. Donc, et du coup, c'était difficile, parce que mon rêve de réconciliation, il s'écroulait. Bon, mais je devais le respecter. S'il ne veut pas se réconcilier, je n'ai pas pouvoir sur sa... Alors, on peut faire des pas hein, dans ce cas-là, mais après, à un certain moment, si l'autre ne veut pas, il ne veut pas. Hein. On suit notre chemin différemment, après, et puis c'est tout. Mais dans tous les cas, Dieu nous appelle à pardonner. Parce qu'on voit que pour beaucoup de personnes, quand on ne pardonne pas, ça nous pourrit un peu la vie, pour dire les choses un peu. Et du coup, voilà, parce qu'on est trop. On reste un peu accroché dans le passé à quelque chose qui était douloureux, qui est objectivement douloureux, hein, je ne dis pas, mais. Voilà, le pardon, ça nous permet d'aller de l'avant quand même. Mais même s'il y a réconciliation, la relation, elle sera différente. Et quelquefois, justement, alors il y en a, ils partent d'une étymologie qui n'est pas tout à fait exacte, hein, mais ils disent la miséricorde, c'est comme une corde, elle était coupée, vous refaites un nœud, ça vous rapproche. Alors, c'est pas tout à fait l'étymologie, mais... Mais il y a quelque chose de vrai. La réconciliation, elle peut nous rapprocher. On peut être beaucoup plus proche qu'avant. Si on l'a fait vraiment dans la vérité, etc. Et c'est vrai des amis, c'est vrai des couples aussi. La réconciliation peut beaucoup nous rapprocher. Mais ça demande un mouvement de part et d'autre. La réconciliation, ce n'est pas seulement l'un des deux. C'est les deux qui... aussi bien celui qui a fait du mal que celui qui a subi le mal. Et du coup, après le pardon, donc il y a mettre fin à la relation, la renouveler. Alors quand c'est renouvelé, c'est... Et du coup, moi j'aime bien cette image de la cicatrice, hein, le pardon comme une cicatrice. Alors c'est pas forcément spécialement beau, une cicatrice, mais ça montre que la vie a pris le dessus sur la... Voilà. Et en ça, elle est belle, la cicatrice. Voilà. Ça montre que la vie prend le dessus sur le mal. Bon, on peut fêter le pardon quand on a... Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis arrivé au bout de mon...
Quand on arrive à prier pour la personne, on peut avoir des pensées
de prier. Mais je pense que le pardon, on ne pardonne pas non plus contre sa volonté, donc ça suppose, et ça fait partie quand même des éléments, hein, de prier pour la personne, et de, je pense que ça c'est vraiment important pour... Mais le signe qu'on a pardonné, c'est plutôt quand quelque chose s'est dénoué en nous, c'est voilà, c'est devenu fluide comme avant. Enfin, je ne sais pas très bien comment dire. Et du coup, en tout cas, c'est pas un point de souffrance à un certain moment, je crois. Parce que tant qu'on prie, quelquefois, c'est que on est sur le chemin. Et c'est très bien, c'est très bien. Mais une fois que le pardon est accordé, alors c'est on est plutôt dans l'action de grâce, et puis pour l'autre et avec l'autre. Mais je pense que la prière pour l'autre, de toute façon, est importante, notamment pendant tout le processus. Effectivement, il n'en a pas beaucoup parlé. Et...
Mais le pardon se donne et se
reçoit. Oui.
Et si le don n'est pas en accord avec la réception, il ne faut pas être complet.
Je crois que notre expérience, l'idéal, c'est qu'il soit reçu. Et s'il est reçu, c'est aussi la réconciliation.
Donc s'il n'est pas reçu, c'est unilatéral.
C'est oui, mais quelque chose s'est dénoué en vous. De fait, l'idéal, c'est qu'il soit vraiment reçu, c'est vrai. Mais dans certains cas, il n'est pas reçu. Mais vous, ça vous empêche plus de vivre. Vous avez fait votre part. Autant qu'on peut, et on tourne la page, et puis on continue notre vie, et puis voilà, ça ne nous empêche pas de vivre.
Ça demande à lâcher prise, on laisse Dieu faire son travail de Dieu.
Oui, et c'est exactement ça, justement ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est cette partie plus lâcher prise, laisser Dieu faire son travail, oui. Après, c'est mystérieux, ça ne va pas toujours aussi vite qu'on voudrait, mais c'est vraiment se lâcher prise. Il y a un point qui me revenait ces derniers jours aussi, c'est... Il y a quelquefois, on a un petit point d'orgueil qui fait que... on n'a pas vraiment envie de lâcher prise, parce que quand même, il m'a fait quand même du mal. Hein, donc, on a ces... Et alors, il y a vraiment ce moment où, voilà, ce point un peu dur, ça se dissout. Et alors, on a pu cette hargne quelque part à un certain moment. Voilà, parce que voilà, c'est passé.
Par rancune, en fait, c'est pas vrai. Quand on est rancuneux, c'est parce qu'on est rancuneux.
On n'arrive pas à... Alors, il peut y avoir de l'orgueil dedans. Maintenant, j'ai peut-être pas raison, hein, mais... j'essaie d'éviter de mettre trop vite l'étiquette orgueil sur ce qu'on fait, parce que en nous, les choses sont quelquefois un peu plus complexes que ça. Mais bon, comme le disait le curé d'Ars, l'orgueil, c'est comme le sel, on en met partout. Donc, on ne veut pas ça. L'idéal, c'est quand même quand le don est donné et reçu. Et c'est C'est quand on peut parvenir à une certaine communion. Et si la communion, ça suppose à la fois donner et recevoir, et ça va à double sens, la communion. Et du coup, quelquefois, ça peut être aussi important de... Je vous ai déjà raconté ce frère qui m'avait offensé, pardon. C'était il y a très très longtemps. Alors, il y a une cicatrice, oui, mais qui est justement où ça ne m'empêche pas de vivre, au contraire. C'était justement avant la Semaine Sainte, il y a 37 ans. Donc, je vous dis ça au pif. Si, ça devait être en 88, je pense. Donc, je me souviens quand même, la mémoire, on pourrait. Donc, ce frère, il m'avait blessé. Bon. Et moi, je dis, non, mais je lui pardonne. Mais en fait, c'est comme j'avais dit dans les premières étapes, c'était la vengeance passive. Hein, je ne disais rien de mal, mais je disais rien de bien non plus. Et c'est lui qui est venu vers moi en disant, mais je crois que je t'ai fait mal ou je ne sais pas. Et du coup, à ce moment-là, c'était un très beau moment où j'ai senti qu'il avait besoin de mon pardon quelque part. Et du coup, ben, on s'est réconciliés vraiment à ce moment-là. Et c'était un très beau moment et je crois que ça nous a vraiment rapprochés aussi. Mais c'est parce que lui avait fait cette démarche aussi d'humilité. Et du coup, il attendait quelque chose de moi et c'était important. Et il me l'a exprimé aussi qu'il attendait quelque chose de moi. Et du coup, voilà, ça a facilité, alors cette fois-là, une réconciliation vraiment. Et puis pour moi de vraiment pardonner parce qu'en fait, ça restait quand même... un peu en travers de la gorge jusque-là. Mais après, du coup, non. C'était parce que j'étais passé de... Là, j'étais blessé, énervé par quelque chose qu'il avait fait. Mais là, j'étais plus le regard sur l'offense, mais sur lui qui me demandait le pardon. Donc, c'était un lien entre des personnes et pas simplement avec une offense... Je pense, bon, dans nos familles, ben, c'est comme c'est. Alors, je pense qu'il y a des choses qu'on peut apprendre dès le plus jeune âge aussi, quand même. Alors, on n'oblige pas quelqu'un. On peut, les parents demandent quelquefois de demander pardon. Et je pense que c'est quelque chose d'important de savoir demander pardon. Ça ne va pas de soi, etc. Et puis après, on voit un petit peu cette pointe d'orgueil où on veut avoir raison, où on veut pas se reconnaître débiteur à l'égard de l'autre. C'est vrai, il y a une manière d'accepter que l'autre soit, oui, de pas avoir le dernier mot, de pas avoir. Et ça s'apprend. Je pense que ça s'apprend aussi. Petit à petit aussi, c'est aussi un combat spirituel, hein, un vrai combat spirituel, finalement, qu'on vit peut-être mieux si on est paisible intérieurement vis-à-vis de Dieu. L'autre, bon, il pense ce qu'il veut. Après, moi, l'important, c'est ce que je vaux aux yeux de Dieu. Et du coup, ça a moins de relief à ce moment-là, ces disputes, etc. On peut avaler quelques couleuvres tranquillement. Parce que je pense que dans la vie familiale comme dans la vie communautaire, il faut avaler des couleuvres, sinon la vie n'est pas possible. Oui, oui, et puis... Oui, ce que dit souvent aussi Montbourquet dans son livre, les trois quarts du temps, on n'avait pas voulu offenser, c'était pas... De fait, on était maladroit, on était fatigué, tout ça, on a dit une parole qui dépassait notre pensée, etc. Alors, ça peut faire des catastrophes, mais c'est pas forcément intentionnel. Je voulais pile que ça te fasse mal. Non, quelquefois, c'est tombé comme ça. Alors, il peut y avoir de la malice aussi. Hein. Je ne dis pas que c'est que des maladresses. Quelquefois, il peut y avoir de la malice. Et... Mais quelquefois, c'est pour ça que la première étape est importante. Faire cesser les actes offensants. Quelquefois, il y a des gens qui font du mal et ils ne se rendent pas compte qu'ils font du mal. Du coup, c'est important de les confronter un petit peu pour dire « Moi, ça, ça me fait du mal. » Après, tu continues. Mais maintenant, tu sais que ça me fait du mal si tu continues. Parce qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas forcément compte. Et puis, ça dépend aussi de notre sensibilité. On dit la même parole à deux personnes différentes. Une, ça ne lui fait rien. L'autre, ça la... Donc,
Ce qui peut aider aussi, c'est comment je le vis avec une mère qui s'est fâchée. Quand une personne de la famille s'est fâchée, même si on a demandé pardon, bon, demander pardon alors que la faute elle était pas. Hein. Mais en fait, ce qui aide, c'est un prêtre qui disait ça. On est, de par la grâce du baptême, on est prêtre, prophète et roi, et de prophétiser la bénédiction sur elle. C'est-à-dire de vraiment, chaque fois qu'on revoit son visage, au lieu d'être ressassé le négatif, de dire d'être bénédiction au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, eh ben, Jésus, tu bénis cette personne. Et ça, petit à petit, on ne voit plus son visage pareil. Jésus nous donne de la voix comme lui la voix.
Oui, oui. Vous voulez poser une question?
comment on va positionner ça entre peut-être comme ça et vous comptez les aérameurs après, mais on ne peut pas exiger un pardon sans faire.
Alors, de demander pardon ou de demander de pardonner, c'est pas la même chose. Parce que quand il y en a un qui a donné un coup à l'autre, de lui demander demander pardon, je pense que ça... Après, demander de pardonner, ça, c'est autre chose, c'est beaucoup plus intime. Mais de demander pardon, je pense que...
Il le demande de pour l'espace.
Bon, après, oui, la répétition, c'est ça, la répétition peut... Et au moins, à cette occasion, vous leur dites que c'est quelque chose d'important quand on a fait du mal à quelqu'un de revenir. Bon, après, la personne a sa liberté, hein, elle peut le faire extérieurement, et puis voilà. Mais on a aussi les parents qui demandent pardon à leurs propres enfants. Et du coup, quelquefois, ça impacte encore plus. Mais ça fait partie d'un ensemble. Si on leur demande de demander pardon et qu'on ne leur demande pas pardon, voilà. Bon. Vous n'allez pas aller la voir, c'est un peu compliqué, donc c'est un chemin à faire avec le bon Dieu, avec peut-être le conseil de quelqu'un pour... je ne sais pas si je... Mais déjà, de reprendre la liste. mais c'est vrai que dans la première, on pourrait mettre justement de bénir aussi le... Mais je pense qu'il y a différentes choses. La première partie, c'est vraiment au niveau psychologique, en quoi ça nous a profondément atteint. Sinon, ça a tendance à tout envahir. Alors là, du coup, ça permet de repréciser les choses et voilà. Et du coup, ça nous prépare à recevoir la grâce du pardon. Mais c'est pas automatique. Mais déjà, je pense de refaire un peu le cheminement. Et ça, on peut le faire aussi vis-à-vis de quelqu'un de décédé. La réconciliation, non, mais là, ça, oui.